eux, quoi. Puis j'ai bossé, j'ai fait plein de couvertures pour White Wolf pendant 3 ans à peu près, enfin, des couvertures et des illustrations intérieures. Entre-temps, enfin, en parallèle, j'ai été musicien dans une boîte de jeux vidéo chez Darkworks. Donc, parcours chaotique. Je suivais plusieurs pistes comme ça, je ne savais pas trop vers où aller. Et puis finalement, petit à petit, je me suis dirigé plus vers l'illustration. Ensuite, j'ai été lead designer chez Rackham, la société qui fabrique des figurines et qui fait les jeux Ragnarok et Confrontation. Donc, lead designer pendant 3 ans. À la suite de ça, j'en avais marre de bosser pour des patrons, et donc je me suis mis en freelance, et depuis, j'ai plus arrêté, quoi. Voilà à peu près le
D'accord.
parcours. Donc, comme Alexis, un petit peu multicarte, autant à bosser pour des couvertures que pour des jeux de rôle, des jeux de plateau, des jeux vidéo. Voilà. Pas de bande dessinée pour moi parce que je préfère être illustrateur, quoi. Travailler sur une seule image, raconter une histoire sur une seule image plutôt que l'art
Là,
séquentiel.
vous avez un petit peu quand même chatouillé la narration, là, de toute façon.
Ouais,
Enfin,
un
même
peu,
si
ouais.
Alexis avait déjà des expériences avec
Ouais. C'est vrai que Merlin, c'est un livre
la bande dessinée.
hybride à bien des par bien des côtés, effectivement. Ouais.
Alors, la rencontre, parce que moi, de l'extérieur, par exemple, on voit donc les légendes de la table ronde, dont quelques histoires sont illustrées par Alexis. Bon, Spawn, qui n'est pas du tout dans le même type d'univers, mais en gardant quand même le même type de graphisme. La rencontre, en fait, entre vous deux, ensuite avec Jean-Luc Histin, parce que j'imagine que vous connaissiez vous avant, ne serait-ce que par le biais des images ou par le biais de Virée Nocturne. Mais donc racontez-nous un peu ça.
Au niveau chronologique, je dirais, en fait, j'avais commencé à travailler pour Soleil Celtique avec Jean-Luc Histin sur différents albums, donc les légendes de la table ronde. C'était pour moi l'opportunité de me confronter justement ou de faire de nouvelles tentatives, de nouvelles approches graphiques en bande dessinée. L'avantage, c'est qu'il s'agissait en fait de collectifs avec des petits segments à illustrer qui ne représentent pas le même investissement qu'une grosse série qui va courir sur plusieurs tomes. Donc j'ai notamment réalisé les couvertures de ces albums-là et 3 segments différents. Donc c'est plutôt bien passé. Et donc voilà, j'avais un très bon contact avec Jean-Luc Histin qui un jour m'appelle et me propose un beau livre. Et je crois qu'il avait balancé comme ça le nom de Merlin, mais rien n'était sûr. Et moi, je pensais pas, j'avais pas envie de m'atteler à ça tout seul. On avait déjà travaillé ensemble avec Jean-Sébastien. On partageait énormément au niveau goût dans l'absolu, musique, au niveau graphique également. Et donc on a discuté entre nous pour voir si Jean-Sébastien était partant également. On est revenu vers Jean-Luc en lui disant ouais ok voilà avec nos objectifs. Enfin je pense qu'on a eu plusieurs discussions comme ça entre nous, essayer de comment dire de fabuler sur un standard sur le livre qu'on aurait envie de faire, le livre qu'on aurait envie de voir. Et voilà.
C'est vrai qu'au début, quand Alexis est venu me voir avec le projet, je sortais de 3 ans d'Heroic Fantasy chez Rackham, et j'en avais ras-le-bol, quoi. Et je voulais faire du contemporain, des choses un
D'accord.
peu
Et là, tu es en train
différentes.
de me dire que ça change de l'Heroic Fantasy, là.
Comment?
Tu es en train de me dire que Merlin, ça t'a changé de l'Heroic
Non,
Fantasy.
absolument pas. En fait,
D'accord.
j'avais pas du tout envie. Et Alexis est arrivé, il a commencé à me balancer tout un tas de croquis préparatoires, des choses super sexy. Je pouvais absolument pas dire non. J'aurais été le type le plus débile de la Terre de dire non, en fait. Et donc, j'ai réenquillé, en fait. Et voilà quoi. Mais je regrette absolument pas, parce que le mythe arthurien, c'est un amour de jeunesse pour moi. Comme je disais, j'ai fait une école de journalisme, et mon mémoire de fin d'année, c'était sur ça, en fait.
Ok, ah oui.
Et je
Il y
me
avait déjà des
souviens,
traumatismes anciens.
voilà, je me souviens de déjà, ouais, quand j'avais 20, 22 ans, d'aller faire mes petits pèlerinages à Brocéliande. Allez, je me souviens avoir interviewé à l'époque Feu Jean Marcal dans sa petite maison à Poulfetant, au milieu de ses chats et de ses cronembours, là. C'était
Ah oui,
un
quand
moment
Alexis
moins
t'en a parlé,
inoubliable.
il savait pas du tout où il mettait le
Non,
doigt en fait.
absolument pas. Et ça m'est
D'accord.
revenu comme ça
D'accord.
10 ans après, alors que je m'attendais plus du tout à travailler sur cet univers-là. Et depuis, je regrette absolument pas. C'est un petit clin d'œil du destin comme ça
Et
qui est
moi, ce qui est
vraiment.
marrant, justement, je pense à contrario, en fait, j'ai pas d'affect particulier avec ce genre-là. Finalement, j'ai fait les légendes de la table ronde, j'ai fait beaucoup d'illustrations de fantasy, ça vient peut-être aussi de là. J'aime changer d'approche graphique, j'aime changer de sujet également. Et pour moi, en fait, en étant un petit peu caricatural ou en tirant enfin, vraiment très fort, Merlin, pour moi, c'est le même sujet que quoi que ce soit à côté, ou le mythe arthurien. Enfin, comment dire ? Disons que j'aime beaucoup, j'ai pris un plaisir énorme, j'adore en fait me plonger dans ce... Enfin, m'être plongé en fait dans ce sujet-là, mais c'est pas non plus... Je suis pas nourri par ça depuis petit, ou j'ai pas un feu sacré rapport à ça.
Mais alors, entre vous deux, quand tu parles de Merlin les premières fois, tu te dis pas, waouh, comment on va faire pour renouveler le truc, quoi, pour
moi, je dirais c'est exactement ça, justement.
Et pour ouais, que
c'est
le bouquin ne passe pas inaperçu, parce que les livres, il y a quand même une
telle
production.
C'est le côté, wow, qu'est-ce qu'on pourrait faire, en fait, pour renouveler la chose. Donc, comme je disais, pour moi, c'est quel que soit le sujet, c'est comment faire pour le transcender, pour essayer d'accéder à un standard qui soit beaucoup plus haut et marquant. Et là, il y a quand même une nourriture, enfin, une matière première qui est assez phénoménale. Donc, l'idée, c'est prendre tout ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour le hisser le plus haut possible, et proposer une version différente qui soit marquante. En gros, je pense que toutes nos premières discussions tournent autour de ça. Quelle approche on pourrait avoir visuellement, graphiquement, en termes de rythme dans le bouquin, en termes de look, où est-ce qu'on voulait aller. Et, par exemple, il y a justement une référence directe, mais il y avait une certaine idée aussi de s'aligner sur des standards anglo-saxons en termes de beaux livres, qu'on n'a peut-être pas au niveau culturel en France, en termes de facture, en termes d'illustration. Et notamment, je ne sais pas, pour reprendre, là, il y a des doubles pages qui s'affichent derrière nous. On aurait pu aérer ou rester, c'est des grosses discussions aussi qu'on a eues en termes de rythme, on est parti sur des doubles pages extrêmement chargées. Il y avait un petit côté, allez, on va en foutre plein la vue et on travaille sur les pages, on charge, enfin, pas de retenue, on essaye vraiment de travailler les pièces qui soient en tant que telles, toutes seules, extrêmement marquantes. Et on s'est rendu compte à un moment que le livre, tout le processus a été évolutif, on avait un chemin de fer qui nous permettait de voir tous les stades, et on arrivait quand même, pas un degré de saturation, mais toutes les pages étaient extrêmement chargées. On s'est dit, en termes de prod, on aurait pu limiter.
Je ne sais pas ce que tu en penses, mais en écoutant ce que tu dis, puis en regardant les images en même temps, je ne peux pas m'empêcher de penser que le bouquin, à un moment donné, a eu sa vie propre, et il nous est un peu... il nous a un peu quitté des mains, en fait. J'ai l'impression que, effectivement, quand on parle des doubles pages, moi j'ai souvenir vraiment de discussions qu'on avait au départ. Comment on va faire le bouquin, comment on va l'articuler, commencer les premières illustrations, les premières choses. Et moi, limite, j'ai senti le bouquin partir tout seul. C'est-à-dire qu'on a commencé à mettre en place, effectivement, ce qu'on voulait en termes de design et de choses comme ça. Et très vite, il a pris des proportions. Il s'est étalé sur des doubles pages. Toutes les pages sont articulées en vagues comme ça, parce que ça allait avec le propos aussi, avec le passage des saisons et choses comme ça. Et j'ai vraiment l'impression qu'à un moment donné, c'est le bouquin qui s'est imposé à nous. C'est pas tellement...
Pour la petite blague aussi, en parlant justement de rythme et des pages extrêmement chargées, je pense qu'à un moment, on l'a regretté aussi un petit peu. Ouais. Surtout quand on était en retard en termes de prod. Le bouquin a traîné... pas très très longtemps en raison de toutes nos autres activités, puis voilà, c'était un très très gros chantier, et je me souviens où on s'était dit justement qu'on aurait peut-être plus géré plus de zones d'aération, plus de petits breaks, ça nous aurait nécessité moins de boulot, ça aurait peut-être servi la narration globale.
Alors deux questions là-dessus, juste sur le fait d'avoir le projet qui échappe des mains. Moi, il y a quand même un des partenaires dans la trilogie là, qui, je me dis, mais Jean-Luc Istin, comment est-ce qu'il a pu réagir quand bon, il a fait son texte, j'imagine, en quelques mois, quelques semaines et autres. Et ensuite il voit les pavés couleurs que vous ajoutez au texte. À un moment donné, il peut pas réagir en disant, mais attendez les gars, on voit plus mon texte. C'est un livre qu'on va feuilleter sans forcément être obligé de le lire, parce que c'est vrai qu'on peut très bien le feuilleter et passer des heures à le regarder. Lui, comment est-ce qu'il peut réagir de cette façon-là? Et puis alors, la deuxième question par rapport au travail et ensuite au challenge des premières images qui sont, j'imagine... très énergique et vous, hyper motivé. Comment est-ce qu'on arrive à garder la même énergie tout au long du livre? Le fait de ne pas travailler d'une façon chronologique, parce que là, on ne s'aperçoit pas, par exemple, s'il y a eu des moments de baisse, un petit peu de tension, peut-être qu'on se dit, tiens, s'ils ont travaillé d'une façon chronologique, à la fin du livre, peut-être que ça s'en ressent. Là, ce n'est pas le cas, puisque vous n'avez pas travaillé de façon chronologique sur les pages, en fait.
Pour justement le processus chronologique, voilà. Je pense que c'est essentiel. Et ça permet justement d'avoir un équilibre, une qualité constante sur le bouquin. Là, on peut peut-être revenir sur notre process, comment ça s'est fait à partir du chemin de fer, des premières intentions de Jean-Luc.
Alors en fait, Jean-Luc a eu l'intelligence devant le projet de nous proposer un texte pas sibyllin, mais très, très aéré, très, très évocatif, qui nous permettait justement de nous exprimer vraiment pleinement, d'où aussi la taille du bouquin, quoi. C'était pas forcément évident au départ qu'il soit grand comme ça. D'ailleurs, il était même un tout petit peu plus grand au début. Il a été réduit de 2 cm à la toute fin du projet. Mais il y avait vraiment la volonté de faire quelque chose d'épique, quelque chose qui ait du souffle, quelque chose qui ait une liberté vraiment graphique. Et Jean-Luc s'est attelé à nous mettre un texte vraiment très, très sobre. Et du coup, maintenant, j'ai le plaisir de constater que les gens viennent nous voir en disant « Ah, j'ai le bouquin depuis un mois et demi et je ne l'ai pas encore lu, en fait. » Et les gens d'abord prennent le temps de le regarder et ensuite il y a un deuxième plaisir qui est celui de la lecture. Moi, il n'y a rien qui me frustre plus que de prendre un album, de le dévorer, j'ai un plaisir intense, mais ça dure une heure. Et ensuite, je le range dans ma bibliothèque, je l'ai payé, je sais pas, 20 euros, j'en sais rien. Et ensuite, je l'ai rangé dans ma bibliothèque et c'est terminé. Et ça, je trouve ça super frustrant. Et j'aime bien qu'on vienne me dire « Ah, votre bouquin, j'y retourne souvent, je reviens le voir, je redécouvre des choses et je peux le lire un peu plus tard. » Et ça, c'est vraiment super.
Ça doit être pour ça que tu fais pas de bande dessinée, un an de travail pour un album qui se lit en 20 minutes aux toilettes.
Ouais, c'est ça, ouais, peut-être.
Et voilà.
Bon, l'avenir du Merlin nous le dira.
Si, peut-être pour revenir aussi sur ta première question, c'est voilà, au niveau du process. Donc Jean-Luc, en fait, le texte a été évolutif, il y a eu pas mal d'allers-retours, donc de corrections. Quand je dis corrections, c'est des adaptations au rapport à justement nos visuels. Il y avait toutes les premières intentions, page par page, il y avait le déroulé, donc narratif, le contenu de texte, des pistes d'illustration. Ensuite, on se voyait avec Jean-Sébastien, donc on brainstormait à la fois autour de petits carnets de croquis, parfois autour d'une bécane, à balancer en fait des premiers jets, à parler de références, à parler de ce qu'on voulait, donc voilà, essayer de définir les grandes lignes. Ça nous permettait en fait petit à petit de faire gonfler ce qu'on appelle le chemin de fer. Donc le chemin de fer, c'est un brouillon global de tout le livre. Donc il y a page 1, page 2, enfin couverture, page de garde. Et en gros, on a rempli chaque case petit à petit. Et quand je parle aussi de processus évolutif, c'est voilà, c'est premier pas, c'est un premier sketch. Parfois, c'était juste des annotations texte quand on n'avait rien. Et petit à petit, on a dû remplir en fait ces cases-là. Et c'est ce qui nous a permis notamment de pouvoir peaufiner les illustrations de façon non chronologique. C'est-à-dire on avait une vue globale de l'ensemble et ensuite de pouvoir piocher sur certaines illustrations, de les creuser, donc parfois de les creuser à deux avec des mouvements de ping-pong où on se renvoyait les fichiers, d'autres en fait où voilà, on fonctionnait avec l'envie, c'est-à-dire si quelqu'un, enfin nous deux, tripait sur une illustration, il la prenait en main, il la poussait et voilà, revenir dessus jusqu'au final.
Alors, c'est une... Pour revenir au process, c'est une question qu'on nous pose souvent. Comment on s'est débrouillé avec deux égos, deux personnes sur le travail ? C'est vrai que la première partie du bouquin, la première partie du bouquin, c'est fait à deux, effectivement. Toute la préparation, toute la tambouille préparatoire, on l'a faite vraiment ensemble, dans la même pièce, devant l'ordi. Tiens, comment on pourrait mettre en place ça ? Qu'est-ce qui est le plus opportun de faire à cet endroit-là, comment tu vois les choses et tout. Et ensuite on s'est partagé le travail seulement dans une deuxième partie. Mais tout le chemin de fer s'est fait comme ça.
Jean-Luc Histin, donc porteur du projet, vous confiant un texte, disons, appelé à évoluer, que vous-même vous influencez en l'appelant... Jean-Luc, est-ce que là tu peux changer tel paragraphe ? Ça a pu se travailler
comme
ça ?
Non, on peut pas dire à Jean-Luc, est-ce que tu peux changer quelque chose ?
Si, il y avait quand même une partie de ça. Par exemple, moi, il y a quelque chose qui me tenait à cœur, c'était de rythmer le livre avec des interchapitres et d'avoir de le diviser à la fois en termes de rythme, storytelling pour le lecteur, également pour nous en termes de prod. On
va
dire
c'est pour les différentes époques. Alors
différentes époques, c'est ce qu'on a au final. Elle s'est articulée sur les saisons, mais c'est aussi un tout petit détail. Moi, je trouve que ça permet. Par rapport à un projet aussi ambitieux de, on va dire, lutter contre la procrastination, c'est-à-dire on a un premier chapitre, il faut le remplir, il y en a un deuxième, ça permet d'avoir une division mathématique, technique du livre. Et là, l'idée aussi, c'était voilà, de se nourrir du propos original, le rapport à la Terre, et de l'articuler en fonction des saisons. C'est-à-dire chaque saison, en fait, correspondait à une période de la vie de Merlin, ce qui nous donnait aussi beaucoup d'indications au niveau, pas des indications, mais des pistes,
des
au
couleurs.
Niveau du ton, au niveau des couleurs. Voilà, donc c'est quelque chose qui nous a servi de base, de terreau, pour développer toutes ces parties-là. Donc le printemps, l'automne et l'hiver pour la partie finale, on va dire, la fin de vie de Merlin.
Et alors, gestion des égos, comment ça marche? Quand, par exemple, on voit le livre, quand on connaît vos travaux, on distingue quand même un petit peu les différentes images qui peuvent avoir été faites par l'un ou par l'autre. C'est quand même un jeu, c'est aussi un jeu pour le lecteur d'essayer de trouver un petit peu qui a fait quoi. Mais j'imagine que le but du jeu, c'était qu'il n'y ait pas de différence, que le livre reste homogène. Alors, de l'influence de vous deux, l'un par rapport à l'autre, est-ce que tel détail a été retravaillé par l'un? Est-ce que là, tout à l'heure, on avait une image, par exemple, avec deux portraits sur la même page? Un portrait avait été fait par Alexis, l'autre par Jean-Sébastien. Est-ce que chaque image a été composée à deux? Ou est-ce que vous êtes réparti les images en disant, bah, tiens, moi, j'ai du bleu dans ma palette, là, je vais faire... une vue de ciel, et puis toi tu feras ton brun parce que t'as pas fini ta palette de brun.
Non, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de choses en fait qui se sont faites en fonction de l'envie. Après, je crois que Jean-Sébastien en parle souvent et puis résume bien, on a chacun nos points forts et nos points faibles, et on s'est auto-émulé. Je pense que justement, en rapport de l'échange, moi il y a des points faibles que j'ai compensés justement avec les apports de Jean-Sébastien. Idem de l'autre côté, c'était un espèce de... je sais pas, de mouvement incessant, voilà, quelque chose d'organique et de super enrichissant à ce niveau-là.
Le problème n'a pas été tellement au niveau des égos, parce que quand on vient pas du monde des auteurs à la base. Je veux dire, Alexis a beaucoup plus fait de jeux vidéo que moi, mais j'en ai fait un peu aussi. Et on est habitué à travailler en équipe, en fait. On a pris Merlin comme un travail d'équipe qu'il fallait pousser et mener à son terme. C'était plus l'emploi du temps qui était dur à gérer entre nous trois. Avec Jean-Luc dans un premier temps et ensuite entre Alexis et moi, plutôt que les égos. Et parce que, par exemple, Jean-Luc a mis à peu près 9 mois pour nous passer le texte au départ.
9 mois quand même.
Il a mis très longtemps.
Ah, c'est une grande gestation pour un texte.
Bah, c'est quelqu'un de très occupé. C'est quelqu'un qui a 20 projets en même temps.
Non, pas 20, 60.
Ouais, ah bon,
en directeur de collection, en écriture, au niveau du scénario. Donc effectivement, voilà, il était...
Non, c'est vrai. T'es très très occupé, et nous de notre côté, comme disent les nuls, c'était pas un full time job, Merlin. Et on a toujours des projets en même qui viennent se greffer à ça.
Le travail lui-même sur Merlin, si j'ai bien compris, a duré quand même quelques années.
Ça a duré 3 ans et demi.
Pas en continu donc.
Pas en continu.
Il y a eu des périodes de rush et des périodes vraiment intenses. Et je pense que voilà, en fonction de notre emploi du temps respectif, et même ça coupe avec une des questions que tu as balancées au tout début, là, c'est comment conserver le rythme et la constance. En fait, je vais dire sur 3 ans ou sur une durée aussi longue, c'est impossible. Donc il y a des pics comme ça où il y en a un qui prend le pas au niveau dynamisme sur l'autre, l'autre il back up derrière, et c'est une alternance comme ça où. Enfin, je trouve que justement, il me semble que ça nous a fait du bien. Moi, ma peur au début, là, c'était voilà, de bosser sur un livre tout seul et de se retrouver vraiment face à la table à dessin, la deadline et pas de motivation. Et là, justement, c'était de jongler avec d'autres paramètres qui sont... parfois, quand l'autre fait une avancée, tu as envie, pareil, d'être au niveau derrière, tu as envie d'assurer, tu as envie de...
En fait, d'une certaine manière, on était tout le temps en train de se séduire, plus ou moins, entre guillemets, graphiquement l'un l'autre, parce qu'on n'était jamais dans le même temps. Et donc, quand il y en a un qui avançait... il envoyait ses pages à l'autre pour dire « Ah, t'as vu où j'en suis ? Regarde, j'ai fait ça et tout. »« Ah, merde, putain, ah, t'as fait ça, il faut que je m'y remette et tout. » Et donc, on arrivait à s'émuler comme ça, une petite compétition amicale.
En trois ans, vos styles évoluent, hein, vos performances graphiques personnelles évoluent. Donc, comment est-ce que, quand tu commences un bouquin il y a 3 ans, comment est-ce que, 6 mois avant la deadline, t'as pas envie de tout refaire ?
Il faut accepter ça dès le départ, je crois. Il faut accepter que ton style va changer et il faut essayer de pas y penser et de se dire bon bah voilà, c'est le bébé part, il part comme il doit, et à un moment donné il faut arrêter de se prendre la tête sur son travail d'auteur, sinon on fait rien en fait. C'est des projets qui sont longs et il faut accepter qu'il y ait une évolution, qu'il y ait un changement.
Moi, ouais. Je dirais, par contre, justement, c'est y a la deadline, effectivement, la respecter. Et puis, à partir de la deadline, voilà, le bouquin aura sa propre vie. C'est un figé, un instantané de ce qui a été fait auparavant. Par contre, justement, donc notre technique est entièrement digitale, quasiment. Je crois qu'il doit y avoir 3 crayonnés tradis en vrai dans le bouquin. Et il y a ce côté, justement, où on peut revenir sur les fichiers. Moi, pour ma part, je voyais la deadline arriver, j'ai essayé de remplir, donc j'avais pas fini toutes les illustrations, toutes les pages, mais une fois fini, je revenais en fait sur des illustrations précédentes que j'avais entamées 2 ans, 3 ans après, pas les reprendre à zéro, c'est-à-dire que c'était impossible, mais essayer de les peaufiner justement en fonction de ce que j'ai appris entre-temps, de mes progrès, et à la fois d'un regard neuf sur ces pièces-là, et ensuite effectivement en fonction de tout ce que j'avais appris depuis. Et donc voilà, tu peux pas... Il y a même des choses qui font parfois mal où tu te dis, oh, putain, enfin voilà, t'as fait ça il y a 3 ans, ton style a évolué, t'aurais une approche complètement différente depuis. Mais bon, tu fais avec, t'essaies juste de peaufiner, d'arranger au maximum. T'attends la deadline, t'envoies ça chez l'imprimeur et après, voilà, on passe à autre chose où c'est figé, c'est tel quel.
Mais je connais des gens qui sont capables de reprendre leur travail du début et qui ne sortent jamais rien. Hein. Ça arrive vraiment dans...
Tiens, l'écran, ça c'était un grand moment en fait, les chromalins qui arrivent. Voilà, après 3 ans de taf, ah ouais, le premier tirage, vrai. À jauger la qualité du papier, la sortie d'impression, qu'est-ce que ça rend au bon format. Je demande d'avoir vu les fichiers pendant plus de 3 ans sur sa bécane, quelques sorties couleurs. Et là, ça commence juste, c'était le premier pas où ça devient concret. On appuie la main, c'est bientôt parti. Des dernières corrections à faire. Ouh là, il y a des coquilles dans le texte.
Alors, on a vu passer la couverture, par exemple, avec donc le portrait de Merlin. Alors, qui a décidé de s'approprier Merlin, en fait ? Comment ça s'est... Par exemple, sur le personnage en fait, lui-même, vous êtes échangé des croquis, savoir comment définir le portrait. J'ai vu des annotations sur, par exemple, le profil de Merlin identique au profil de Viviane. Des choses comme ça.
On avait nos chouchous, en fait.
Istin, vous avez un petit peu coaché là-dessus ou non ? Là, c'est liberté graphique à tous les deux. Et puis,
Non, je crois que c'était brainstorm frénétique avec pas mal de recherches. Je me souviens même, moi, d'avoir utilisé un soft 3D pour faire des tentatives à partir du même mesh, en fait, d'établir le profil de Merlin, le profil de Viviane, de revenir en fait, à un âge plus jeune, comme je disais.
Il faut dire une chose, c'est que Merlin existe dans la réalité. Est-ce que il est ouais.
un ami
c'est,
commun
c'est un ami commun en fait qui vit dans les monts d'Arrée effectivement ouais, on l'a pris enfin Alexis l'a pris en photo et l'a placé sur un soft 3D pour pouvoir faire tourner sa tête dans tous les sens au début du projet pour pouvoir
s'il y a d'autres trucs qu'on a peut-être oublié c'est justement les réflexions autour de le fait de lui donner des yeux verrons. Donc voilà, c'était comment on voulait le typer au début. Je me souviens d'avoir eu des discussions, enfin qu'on a eu des discussions, les références qui arrivaient, c'était, je sais pas, une carrure à la Johnny Westmuller, avec des épaules très larges, un bassin très fin, et pas d'en faire un, comment dire, quelqu'un de physique, un chaman assez musculeux, voilà, qui développe quelque chose, qui a du charisme, une grande taille. Il y avait d'autres influences, donc là c'est peut-être plus notre culture populaire, ou peut-être moins la Wolverine. Tu te souviens ou pas, non ?
Pour le visage, on a eu, pour le visage, dans les inspirations, il y avait David Bowie. Pour le côté des yeux verrons, tout ça, et puis le beau gosse blond, là, il y avait Sting dans Dune.
Iggy Pop, la Liguane, justement, on en avait parlé au niveau de la gestuelle et la présence, le charisme. C'est très con, mais voilà, on se disait comment développer un personnage.
Chouette casting, quand même.
Ouais, on voulait qu'il soit rock'n'roll, ouais, clairement.
Ouais, Vortigern, c'était Galabru, je pense.
Ah bon ?
Et ouais, donc les yeux verrons aussi, il y avait toute une symbolique, truc marrant, mais voilà. Ça va de pair avec le développement du personnage, avec sa relation avec sa sœur jumelle Viviane, donc cette nouvelle approche là qu'on a eue dans le livre. Et c'était un œil bleu, en fait. Donc moi, derrière ça, il y a une symbolique, c'est tourner vers le ciel, quelque part, donc la distance. Un œil vert, en fait, tourner vers la terre, la nature. Et c'est quelque chose de réminiscent dans le livre. C'est vraiment filigrane, mais...
Alors la présence du double, Viviane, Merlin, bon... On ne sait pas trop Lancelot là au milieu comment il est né de quelle union qui va s'occuper de lui. Moi je trouve que ça renvoie un petit peu à la fabrication même du livre quoi avec vous déplaçant à deux travaillant à deux jouer le double. Est-ce que à un moment
c'est
donné
qui fait Viviane
un s'approprie les disons les images plus terriennes, l'autre les images plus aériennes. On sait que vous avez quand même des styles et des façons de travailler un petit peu différentes. Moi, je dirais
ouais,
que
des...
Jean-Sébastien a un graphisme des fois entre guillemets plus maniéré, plus graphique sur l'aspect un peu art déco.
Oui, Alexis, un peu plus cinématographique que moi.
Les influences de ta compagne.
Oui, complètement. Non, c'est mes influences à moi. Enfin, moi, j'ai fait du design graphique aussi pendant plusieurs années, donc. J'ai amené dans le bouquin tout le côté effectivement imprégnation des illustrations par le design, le mélange du design et des illustrations, le fait que les frontières entre les deux soient complètement floues, qu'il y a un amalgame. J'ai amené cette partie là et Alexis a amené une partie plus cinématographique, plus
Ce qui est marrant, ça, c'est pareil, c'est qu'il y a eu une gestation là-dessus et il y a eu le petit moment où on sentait qu'on avait mis le doigt sur le bon truc. Il y a eu pas mal d'échanges aussi, voilà, sur les premières pages, la mise en place Et c'est à force de parler, d'essayer des choses, les références, le livre de Kells, nos références graphiques modernes. Et je me souviens, je crois que, je ne sais pas si ça fait partie des images en déroulé, c'était une des premières affiches qu'on avait fait pour les rencontres de l'imaginaire, où il y avait trois panneaux différents, donc une sorte de triptyque qu'on avait essayé de lier. Et c'est sur cette image-là, en fait, on s'est échangé plusieurs fois, où il y a eu un... Je ne sais pas comment dire. Il y avait des intentions, et c'est... Bah, la mise en forme qui en résultait, ça nous a donné le ton en fait sur tout le livre. Et je sais pas, moi j'ai senti comme un petit déclic où on savait vraiment où on allait aller pour la suite, avec voilà différentes variations. Toutes les pages, les pages sont articulées différemment, mais il y a toujours un air de famille ou un lien commun, comme tu disais, c'est la jonction entre le graphisme, un espèce de lien visuel entre tout, et des parties beaucoup plus figuratives.
Alors, pour parler technique, donc les logiciels utilisés, par exemple. Donc il y a, moi j'aurai deux questions un petit peu techniques. Après, on passera, si c'est possible, un micro dans le public pour avoir peut-être un échange. Sur cet aspect technique et sur le nombre d'échanges entre vous, j'ai envie de demander, il y a combien d'images qui n'ont pas été publiées et donc à quand une expo des inédits de Merlin, quoi, par exemple ? Est-ce qu'il y a des images abouties qui n'ont pas du tout été utilisées ?
Non, je crois pas.
Pas d'image aboutie.
Il y a certaines pages sur lesquelles j'ai travaillé qui m'ont demandé une gestation particulière parce que c'est des images qui me tenaient énormément à cœur et elles sont passées par des tas de stades. Chez moi, j'ai des tas de versions de certaines pages. Par exemple, la page où Merlin et Viviane s'enfoncent en fait à la fin du livre, dans des teintes un peu bleutées, s'enfonce vers celle-ci. Voilà. Celle-ci, elle est passée par des stades vraiment très différents. J'ai fait quatre versions différentes de cette double page pour finalement retenir celle-là. Mais je voulais mettre tellement de choses dedans que je me suis beaucoup perdu en fait à l'intérieur. Mais je pense pas que ce soit montrable. C'est vraiment des versions de travail assez. Qui sont pas exploitables. Il y a très peu de choses. D'ailleurs, pour le petit work in progress à la fin du livre là qu'on voit avec les croquis et tout ça, c'est vraiment on a vraiment tiré tout ce qu'on avait, on l'a mis vraiment dans le bouquin, quoi. Finalement, on a comme on a un processus de travail qui est de partir vraiment de croquis très très rapide. Et de faire monter la sauce par ordinateur, il n'y a jamais rien de figé, il n'y a jamais rien de terminé. Donc on était tout le temps en train de retravailler, parfois même d'effacer des pans entiers de ce qu'on avait fait directement sur le fichier. Et voilà quoi. Donc les choses évoluaient. Et voilà. Donc du coup, on n'a pas vraiment de pièces qui pourraient servir d'exposition. Voilà. Autre que celle du livre, en tout cas.
Le making of du livre. Les logiciels, alors par exemple, entre Photoshop, un peu de 3D, des choses comme ça, utilisation, un support photo pour la documentation, j'imagine.
Ouais, quand on travaille dans des images aussi réalistes, on va dire, on peut pas s'exonérer d'une base photographique, c'est pas possible. Même si à la base on a des refs tout à fait classiques. Pour la finition, on prend quand même de la photographie pour être sûr de ce qu'on fait.
Je crois qu'au tout début aussi, on a appliqué le même processus. Moi, ce que j'ai appris en fait dans le jeu vidéo en termes de concept art, c'est avant de partir bien en tête, t'as une catégorisation à faire. Et il y a différentes cultures dans le bouquin. Et c'est avoir une approche justement avec des folders, des dossiers de référence triés. On s'en est éloigné au fur et à mesure. Voilà, c'était peut-être juste une base, une inspiration de départ assez vaste. Mais on avait mis au point un truc avec différents types d'environnement, différentes approches pour les personnages. Les personnages plus barbares, sauvages, d'autres qui sont un petit peu plus chrétiens, plus lisses. Donc toutes les références allaient justement, références cinéma, photos perso, de la forêt... différentes choses.
Ah, mademoiselle, j'ai des tas de photos d'Alexis torse nu sur mon ordinateur. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, vous venez me voir.
Merci, merci.
Après,
ouais, c'est ce qu'on voulait savoir, en fait. les projets. Un Merlin numéro 2 ou serait envisageable ? Est-ce qu'au cours du processus, est-ce qu'à un moment donné, par exemple... en fonction de vos motivations diverses, en fonction peut-être de vos des difficultés à travailler à deux aussi, parce que j'imagine que ça ne doit pas tous les jours être aussi sympathique que sur cette scène. Est-ce qu'à un moment donné, on peut se dire « Waouh, j'aurais dû le faire tout seul », honnêtement? Ou est-ce que ça restait toujours lourd? Est-ce que le plaisir de travailler à deux était toujours là pour l'émulation, justement? Et à aucun moment, on dit « Waouh, j'aurais... » Non, finalement,
moi, sur Merlin,
tout seul,
je me suis jamais dit ça.
Ça aurait été la galère.
Ouais. Sur Merlin, je me suis jamais dit ça, parce qu'il y avait... encore une fois, c'est vraiment un projet d'équipe à mettre au monde ensemble, et ça m'est jamais arrivé. Après, de fouiller des pistes, par exemple, quand on a fouillé le personnage de Viviane, me sont revenus en tête mes lectures de Marion Zimmer Bradley et Dame d'Avalon, tout ça. Et le personnage de Viviane m'a donné envie de pousser plus loin, et je sais que j'ai écrit des choses qui vont me servir pour un prochain bouquin. Mais sur Merlin, non.
D'accord. Et donc, par rapport, disons, au mythe, beaucoup de documentation pour essayer de ne pas contredire, ou vraiment roue libre?
Ça, c'est plus la partie de Jean-Luc, et je dirais que...
Non, mais graphiquement, par exemple, graphiquement, la recherche de costumes, les armures, les choses comme ça, il y a eu
Nous, l'intention, je crois que c'était d'avoir une approche moderne, être à la fois, fidèle, non, pas fidèle, c'est pas le mot, de conserver un petit esprit traditionnel. Donc il y a beaucoup de référents, que ce soit dans les éléments graphiques, le Book of Kells, que ce soit en termes de peinture, il y a beaucoup de clins d'œil où on s'est fait des petits plaisirs. Voilà, petit clin d'œil à Gaspard Friedrich, petit clin d'œil, il y a du Klimt, du Mucha, il y a...
Waterhouse.
Waterhouse également, voilà, il y a Alma Tadema, enfin, plein de références, voilà, qui ont traité le mythe arthurien, ou parfois même pas, c'est juste des associations d'idées, voilà, peintre symboliste qui peut nourrir un petit peu la machine. Après, je dirais, justement, moi j'aime bien, c'est tout le spectre complet, voilà, on a ces références-là d'un côté, et à l'autre bout, c'était juste l'envie de faire... voilà, il y a pour moi, il y a le Seigneur des Anneaux qui sort au cinéma, c'est du cinéma, effectivement, mais en termes d'imagerie, on se doit d'être à ce standard-là, en termes de qualité, en termes de pousser l'imaginaire, en termes de finition. Donc voilà, il y a le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La série avec Sam Neill, non, c'est pas pas le même niveau.
Ouais, non, mais pour être plus généraliste, effectivement, on a essayé de mixer des références qui sont des références de peintres du 19e siècle, et on a essayé de les coupler avec des standards cinématographiques d'aujourd'hui, des choses un petit peu plus rock'n'roll, et faire se rencontrer ça et voir ce que ça allait donner, quoi. C'était vraiment... Parce que c'est de là d'où on vient, finalement. Ça nous ressemble. Dans notre élaboration culturelle, on a effectivement on a appris à aimer des peintres, ce qu'Alexis appelle les grands maîtres, les vieux morts. et puis ce qu'il y a aujourd'hui, quoi, hein, clairement.
À ce sujet-là, c'est Claudine Glot qui nous a offert une super préface. Je trouve qu'elle résume très bien, en quelques mots à la fin... Enfin, ça correspond très bien à notre approche, donc ça nous donne peut-être aussi un alibi pour prendre de la distance avec, on va dire, le mythe traditionnel. Mmh. Et on sera peut-être taxé d'hérésie au niveau de l'histoire, et peut-être même au niveau de l'approche visuelle par certains. Mais c'était le fait, justement, que ce Merlin, c'est un mythe universel qui a besoin et qui se nourrit, justement, du renouvellement. Et à chaque époque, on peut avoir des versions différentes de Merlin. Bref, c'est quelque chose de pas figé. Il y a tout un fond derrière. Il y a le rapport à la terre, le rapport à la magie. Il y a une espèce de background, on va dire, historique, auquel se référer. Mais ce qui est intéressant, c'est toujours pareil, c'est de reprendre un standard, quelque chose qui existe, et d'essayer de creuser un petit peu, d'aller plus loin, de donner notre propre version. Enfin, nous, en tout cas, au niveau artistique, je pense que c'était un des challenges principaux du truc, quoi.
Ouais, puis il y a l'idée aussi que le mythe arthurien n'est pas figé, effectivement. Enfin, les légendes celtiques sont là, il y a des gens qui ont écrit dessus, mais ça a toujours évolué, il y a toujours eu des versions différentes, et finalement c'est un mythe qui se régénère perpétuellement, qui s'ancre toujours dans la réalité contemporaine, qui repuise à l'intérieur pour réévoluer, pour donner à nouveau un nouvel avatar, si tu vois à peu près ce que je veux dire, ou je suis un peu flou.
Ça me fait penser également, tu vois, par exemple, à Arthur, le fait qu'au niveau historique, en fait, ce soit une fusion de différents personnages et qu'il n'y ait pas un seul vrai... Enfin, le Arthur qui est présenté dans le mythe, quelque part, pareil, qui a différentes facettes, qui a changé avec le temps, impossible, en fait, de le référer à un seul personnage, et c'est plutôt différents grands chefs de tribus qui sont apparus à une époque assez rapprochée. Mais il n'y a pas de réel un vrai Arthur et le mythe qui en découle, qui est l'histoire fidèle en fait de ça. Il y a toujours une grosse distance avec la réalité. Et je pense ou j'espère, voilà, comme le disait Claudine, qu'on est un petit peu dans cette continuité.
Donc oui, autour du Merlin, beaucoup d'influences, beaucoup de choses différentes. Entre Walt Disney et vous, tout un monde alors.
Ah oui, Walt Disney.
Aucun rapport.
Ça, c'était assez marrant, justement. Je me demande si c'est pas Claudine, justement, qui en parle également dans la préface. C'est l'impact, en fait, et l'importance que le personnage de Disney a eu sur la vision populaire du personnage. Voilà, donc ça a été... Enfin, le Merlin de Disney a eu un impact énorme. Il a beaucoup circulé. Et pour le plus grand nombre, en fait, Merlin est devenu cette espèce de vieux sage, parfois un petit peu loufoque. Et même au niveau visuel, c'est le grand bonnet, le bonnet bleu, les étoiles dessus, la baguette magique. Et nous, il y avait aussi le petit côté rué dans les brancards et s'atteler aussi à toutes les zones d'ombre et la jeunesse du personnage, le présenter de façon vraiment beaucoup plus sauvage. Ce qu'on disait tout à l'heure, une approche plus chamanique.
Oui, on sent, et effectivement, on sent cet aspect nocturne, presque souterrain, quoi, du personnage. Mais, et alors, nocturne, ça me fait penser un petit peu au rythme de travail. Donc, bon, j'imagine que ça a dû être bien intense. Tu parlais beaucoup de musique. Alors, moi, j'ai envie de connaître un petit peu vos quotidiens. À savoir, quand on bosse sur Merlin, on a envie de travailler le matin à l'air libre ou plutôt de nuit avec de la musique plein les oreilles. Et alors, quelle musique préconiser pour la lecture de Merlin, par exemple?
Pour ça, moi, j'ai fait une... s'il y a des gens qui ont Last FM ici, là... moi j'ai un compte sur Last FM et je me suis amusé à faire une petite playlist Merlin, justement, pour ceux qui ont envie d'écouter de la musique en lisant Merlin. J'ai récupéré pas mal de choses, ouais, faut aller voir quoi, ces petites surprises. Ça va de l'ambiante, du dark ambiante, en passant par la musique bretonne, des trucs à la bombarde, non, pas forcément, même complètement traditionnel, de la harpe, des choses comme ça, ouais, de la dark ambiante façon Elend ou ce genre de choses là. Voilà, Otila aussi, qui est un groupe qu'on recommande, Otila, qui est un ami à nous qui a fait une
saut de 20 minutes articulé, inspiré de Merlin, de notre bouquin. Justement, pareil, il a essayé au niveau de la musique d'incorporer la gestion, le rythme global du livre là, avec les quatre saisons. Et bon, bref, il travaille dans un studio de musique et il nous avait invité la première fois là pour écouter son morceau avec les amplis à fond, avec une ambiance très très cinématographique quelque part, entre ambiante et cinéma.
Très Brevard en fait, ouais. L'ambiance.
Avec des petits pics, des montées assez épiques. C'était assez plaisant.
J'en écoute pas mal de BO de films aussi, hein, forcément. La BO de Conan le Barbare a tourné pas mal chez moi.
Je suis peut-être aussi un petit peu différent. J'aime tout ça, l'ambiance, l'électro pas mal, l'ambiance cinématographique. Mais je crois que c'est un petit peu comme mes envies différentes, mes approches différentes. Ça peut m'arriver d'écouter... parfois, j'aime bien me ressourcer, tu vois, pour trouver l'inspi, voilà, écouter du Brevard, quelque chose de très épique. Mais à contrario, je peux écouter que ce soit du death metal polonais ou du hip-hop. Qui n'a absolument rien à voir avec la choucroute en thème d'inspi.
C'est une question d'énergie en fait.
Ouais, peut-être.
C'est l'image que tu es en train de faire, dans quelle énergie elle se trouve, et à partir de là, tu peux écouter un peu n'importe quoi du moment que c'est la bonne énergie.
Si une ambiance posée, si on est en plus dans un travail de jeter les bases de l'image, donc là il y a quelque chose de très actif. Si c'est une image contemplative, voilà, ça sera pas le même feeling. Mais j'ai pas forcément besoin.
Je sais qu'Alexis regarde des films en même temps aussi.
Je les regarde pas, je les laisse tourner en fond.
Il laisse tourner un film en fond pendant qu'il travaille sur sa
bécane. De temps en temps, il y a des pommes Z qui interviennent.
Il y a des petits breaks, ouais.
Alors ensuite, on va passer un petit peu à quelques questions. Mais alors, juste avant, les projets. Bon, j'imagine qu'il y a quand même une petite tournée d'organiser, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même... un peu de bruit fait autour du livre par Soleil.
On a déjà fait quelques dates déjà... ça se voit sur les dédicaces d'ailleurs, parce que elles prennent de plus en plus d'assurance au fur et à mesure qu'on avance.
Alors, toi, si j'ai lu quelque part que tu étais plutôt pour l'instant sur aussi Metal Hurlant.
C'est fait, ça.
Tu peux nous... Ah, c'est fait. Bon.
Oui, c'est fait. C'est Heavy Metal.
Heavy Metal, ouais, pas Metal
Hurlant. Pour l'instant, je sais pas où en est le projet. Moi, j'ai bossé pendant Merlin, j'ai travaillé sur. Sur la suite du film Heavy Metal, en fait, un vieux film des années 70, Si je ne m'abuse, où il y avait du beau monde qui avait travaillé dessus, et j'ai travaillé sur la suite, C'est une série de courts-métrages, en fait, d'animation.
Et c'est assez prometteur, là. Si,
Bah, celui sur lequel j'ai travaillé est censé être réalisé par David Fincher. Donc, je ne sais pas où ça en est actuellement, mais c'est terminé. Enfin, toute la pré-production. Enfin, j'ai terminé toute la pré-production. Voilà. Et sinon, là, par rapport à Merlin, on va essayer de faire. On va essayer peut-être de faire une trilogie. On a fait le premier, Alexis et moi. Je vais faire le deuxième, en fait, et Alexis fera sans doute le troisième.
Voilà. C'est pas Merlin 2 ni Merlin 3. En gros, l'idée, ce serait de continuer à creuser voilà, l'univers, l'ambiance, quelque chose, un mélange de fantaisie arthurienne, quelque part. Hein. Voilà. Mais bon, Merlin, on n'a peut-être pas fait le tour, mais on peut toujours renouveler, mais peut-être temps de passer à quelque chose de différent. Donc, voilà, on verra.
Donc, ouais, Soleil, Istin et vous, belle union, ils eurent beaucoup d'enfants, quoi.
Voilà.
Ouais, parce qu'ils ont été. Enfin, ouais, je voudrais dire merci aux gens de chez Soleil, parce qu'ils nous ont quand même laissé un temps. Enfin, c'était vraiment pas. Enfin, arriver à travailler 3 ans et demi sans se faire engueuler par son éditeur, c'est quand même super. Mais ils n'avaient pas trop l'habitude.
Vous n'avez pas reçu un pack de rugby sur la tête.
Non,
on n'a pas eu Wilkinson qui est venu nous plaquer par terre et. Mettre minable, mais non, ils ont été vraiment super. À partir du moment où ils ont vu que la qualité était là dès le début du travail, ils nous ont laissé faire et prendre le temps qu'il fallait. Même si à la fin, les 6 derniers mois, j'ai quand même eu peur parce que Mourad, le patron de Soleil, voulait tout arrêter. En fait, il trouvait que ça devenait trop long et. Donc à ce moment-là, j'ai dit, bon, on va peut-être mettre un coup de collier.
Oui, un peu mais, de stress.
Voilà. Ah, pardon, putain. Ah,
ça, c'est justement lui qui t'appelle.
Et moi, rapport à ça, justement, le fait de faire un autre livre, j'ai pas mal de projets là sur le feu et j'ai envie de respirer, de conserver le plaisir pour le faire. Donc voilà, je pense pas finir l'autre projet dont on parlait avant 3 ou 5 ans. Donc ça paraît énorme comme ça, mais en fonction de tout ce que j'ai à faire avant, prendre le plaisir de le faire. En ce moment, j'essaie de faire un petit retour justement à la peinture traditionnelle, de vraiment réfléchir aux bases de ce que je veux faire et de vraiment peaufiner. Ça va prendre énormément de temps. Pareil, je pense qu'il y aura sûrement des périodes de rush et des périodes focus dessus, mais j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui court, enfin une tâche annexe, moi, qui me permette de respirer pour mes autres activités. Notamment, là, j'ai monté un studio de jeux vidéo il y a 2 ans, 1 an, et ça me prend la plus grosse globalité de mon temps, donc c'est assez difficile à gérer. Et pour moi, voilà, travailler sur ce genre de projet, enfin j'en ai d'autres en plus à côté, ça me permet de m'aérer la tête et de casser avec la pression et puis le travail de longue haleine sur un projet comme ça aussi intense.
On va prendre quelques questions dans le public et puis on continuera ensuite à sentir la tourbe, la feuille humide et l'herbe grasse avec Jean-Baptiste Monge. Mais si vous avez donc des questions. Des questions techniques, des questions...
Même pas une petite là, non ?
Relatives au livre ou même pas, non ? Je te laisse y répondre.
Bonjour.
Bonjour.
Je voudrais savoir brièvement votre processus de travail, en fait. Enfin, quelque chose d'assez simple pour qu'on puisse avoir une idée, en fait, de votre manière de travailler.
Tu veux dire toujours rapport à Merlin ?
Oui, Merlin ou en illustration en général, quoi. Enfin, à part si c'est vraiment différent. Mais...
Je pense qu'il y a toujours des différences, quoi. Tu vois, entre une illustration, faire la synthèse d'une couverture de bouquin, donc c'est être synthétique, essayer d'avoir une image forte qui résume tout un livre, et là Merlin qui est entre les deux, on n'est ni dans un langage bande dessinée avec un développement vignette après vignette, un respect des cases, en termes de design c'est complètement différent, mais malgré tout il y a un fil rouge et il y a une narration à voir. Sur chaque double page, tu as différentes petites informations. Ouais, je dirais que c'est pas comparable, mais... Les processus sont toujours différents. Même chose, tu vois, que ce soit du concept design, si c'est concevoir des caractères design, des environnements pour de jeux vidéo, séries télé, cinéma, c'est pas la même approche que comment tu établis, comment tu travailles sur une double page d'un bouquin avec une histoire derrière, des éléments forts et essentiels à passer. Je sais pas pour parler de ça, Merlin. Jean-Sébastien, comment ?
Ouais, après, d'un point de vue purement pratique, on va dire, comme on travaille tous les deux quasiment que à la tablette et qu'on n'a pas, on fait pas de crayonnés à la base.
Moi, j'aime bien en faire quand même. Enfin, c'est pas vraiment des crayonnés, mais des petits croquis.
Ouais, toi, pour les couves, ça t'arrive. Ça t'arrive
même pour Merlin, tout ça, en général, je suis pas sûr que quelqu'un d'autre puisse reconnaître ou s'y retrouver dedans et voir ce que j'ai cherché à représenter. Mais moi, ça me permet voilà, de poser mes idées, la compo globale. En général, soit je scanne les petits croquis, soit je les prends en photo et j'ai pas forcément besoin d'avoir une autre résolution. Mais moi, ça me permet souvent, enfin, parfois, il y a des intentions qui sont plus poussées dedans, mais ça me permet aussi d'éviter le syndrome de la page blanche avec quelque chose, je sais pas, gestion de masse, les diagonales, l'intention initiale qui est là. Je peux m'y référer et après, en gros, voilà, c'est le processus organique et évolutif, revenir dessus, rajouter les premières couches, commencer à poser une première gamme colorée, une palette. Parfois, c'est juste un camailleux, travailler sur les lumières.
Ouais, moi, de mon côté, comme j'ai une attirance particulière pour le design graphique, ça m'a poussé à un moment donné dans mon travail, à aller voir des peintres, enfin à aller m'inspirer de peinture abstraite en fait. D'ailleurs, je recommande l'expo Soulage pour les Parisiens, l'expo Pierre Soulage, qui est une tuerie absolue à Beaubourg. Et il y a un moment donné où j'ai eu vraiment une fringale d'abstraction, de forme, de géométrie. Ça m'a fait changer ma façon de travailler. Au début, je travaillais la ligne, comme avec un crayon, je dessinais à la ligne. Et puis petit à petit, j'ai switché, j'ai changé de système pour partir de la masse, en fait. Maintenant, je fais plus les lignes, je fais plus les contours d'un visage, le nez, les yeux. Je pars directement d'un grand aplat de noir et je travaille d'abord ma composition, mon image.
Approche qu'en peinture tradie, quoi.
Ouais, la gestion
entre partir d'un jus
plein,
et puis travailler les rayons de lumière et petit à petit sculpter le visage.
Voilà.
Enfin, ça serait un petit peu le contraire entre école linéaire ou picturale et le fait d'avoir un dessin inserti, super délimité, que tu remplis à la couleur et tu fous tes modelés dessus. Là, c'est plus, ça s'apparente plus à un travail de sculpture où tu sculptes quelque part en 2D, mais tu sculptes avec la lumière, les couleurs, enfin toutes les histoires de contraste et tu fais monter la sauce petit à petit pour définir une image. Et je pense que c'est pas forcément. Enfin, que pour les visages, c'est pour tout, quoi. Un environnement, enfin, n'importe quelle image, quoi.
Oui, non, mais je disais les visages, c'est juste pour bien me faire comprendre, quoi. Je sais pas si j'étais très clair ou quoi dans ma façon de parler. Mais ouais, effectivement, penser en termes de plein, de vide, de noir et de blanc d'abord, et ensuite faire monter petit à petit la lumière. Donc c'est à peu près la façon de travailler que j'ai aujourd'hui, en fait. Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question.
En fait, vous avez quand même une approche vachement traditionnelle par rapport à la peinture traditionnelle.
Oui, c'est indispensable de toute manière. Faut bien garder en tête que l'ordinateur, ça n'est qu'un outil, hein, je leur dirai tout le temps. C'est un outil parmi tant d'autres dans lequel on se trouve à l'aise aujourd'hui. Mais on a commencé tous les deux en traditionnel. Moi, j'ai commencé à l'acrylique, à l'aéro. On avait un héros qui s'appelait Jean-Luc. Jean-Luc. Pourquoi je dis Jean-Luc ? Gilles Francescano. T'as travaillé pas mal à l'aéro, toi ? Toujours d'ailleurs ?
Je suis pas revenu, là. Je suis parti.
T'es pas encore revenu ?
Non, j'ai arrêté l'aéro il y a 3 ans maintenant.
Il y a 3 ans ? Mais ouais, on bossait comme ça au début.
Bon, pour les dreads, ça va être plus dur, mais l'aéro, j'ai arrêté. Ouais.
Et c'est marrant, rapport à ta question, ça recoupe une discussion qu'on a eue hier soir avec Jean-Baptiste. Et moi, je pense au côté. Le traditionnel est essentiel voilà, pour avoir des bonnes bases et être efficace en digital. Comme disait Jean-Sébastien, pareil, c'est l'outil qui change, mais finalement, c'est comment créer une image, comment la faire monter. Après, il y a plein de techniques différentes, il y a plein d'approches différentes, mais qui sont toujours liées ou centrées autour de la même problématique, le dessin, la perspective, les contrastes colorés, les contrastes de masse, bref, tout ça.
Les règles sont les mêmes en traditionnel et en numérique, de toute manière.
Ouais.
Oui, mais pour...
Mais ce que je voulais juste te dire, c'est justement, c'est que le traditionnel donc nourrit le digital ou est essentiel au digital, et le digital en fait malgré tout peut débloquer des choses ou extrêmement servir pour le traditionnel. Il y a le côté un petit peu se débrider, faire différentes expérimentations, contourner en fait, ou avoir en général on a une routine ou un savoir-faire particulier pour aboutir à une image. Dans le digital, il y a plein de façons d'y arriver, des raccourcis différents. Je pense qu'on a tous nos techniques. Parfois, tu peux avoir 2-3 façons d'arriver au même résultat pour éclaircir un fond, pour enfin, je sais pas, voilà, j'ai pas d'exemple particulier, mais ces processus-là, ils peuvent t'amener à comment dire, bah, quelque part à élargir ton champ de vision, à affiner ta façon de faire. Et moi je le sens là justement en me remettant au tradi là un petit peu en ce moment. J'ai pas touché un pinceau depuis je sais pas combien de temps. J'ai là, un réapprentissage à faire au niveau de la technique, au niveau des sensations, au niveau de tout le reste. Mais malgré tout, je sens une grosse différence entre ce que je faisais il y a 10 ans, la gestion de la lumière. Il y a peut-être aussi une assurance dans le tracé, enfin plein de choses. Et donc, juste pour résumer, je pense que les deux peuvent se nourrir l'un l'autre et que ça peut être super enrichissant. Ouais, là genre, en ce moment je le fais juste pour le plaisir et en pensant à un futur bouquin à venir. Ouais, j'espère, j'aimerais bien. Mais pareil, j'ai encore beaucoup de choses à faire. Hisser, comme ça fait longtemps que j'en ai pas fait, c'est hisser le standard et puis arriver à un seuil qualitatif qui me satisfasse quelque part. Et pareil, je sais pas, peut-être que j'alternerai aussi un mélange de tradi et de digital. Mais ouais, je pense que pour n'importe quel apprenti illustrateur ou illustrateur, ça peut être super enrichissant d'alterner les deux. Et moi j'aime pas la notion de clivage justement entre tradi d'un côté, les puristes, et digital, les enfants du digital, la plus moderne avec beaucoup de raccourcis. Effectivement il y a des travers, il y a beaucoup de choses qui se font en digital là, qui manquent parfois peut-être d'assises au niveau traditionnel, mais pour moi ça n'a pas lieu d'être quoi.
D'accord, merci.
Une autre petite question?
On va passer la main.
D'autres questions? Non? Bon, alors on va pouvoir accueillir Jean-Baptiste Mont. J'ai laissé Alexis et Jean-Sébastien repartir vers de nouvelles aventures. Merci à tous les deux. Merci à tous pour le talent.
Merci à vous d'être là.
À bientôt.